Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'une des priorités affichées par Emmanuel Macron après avoir finalement laissé passer l'été et la Coupe du Monde de football. Le président de la République a présenté ce matin son plan contre la pauvreté au cours d'un discours de plus d'une heure avec de multiples annonces et un financement de 2 milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat. Un effort réel donc a priori, mais est-il néanmoins suffisant pour répondre aux défis lancés par Emmanuel Macron lui-même, éradiquer la grande pauvreté en une génération? La méthode et surtout le changement de méthode revendiqué sont-ils à la hauteur? Bref, la lutte contre la pauvreté est-elle vraiment une priorité en France? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Marie-Alette Grard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente d'ATD Carmonde, association présidée par quelqu'un que les auditeurs de RFI connaissent bien, puisqu'il s'agit de Claire Hédon, ancienne voix de Priorité Santé et directrice des magazines de RFI. Je précise, pour être parfaitement transparent, que ce n'est absolument pas elle qui nous a demandé de vous recevoir. Nous vous avons invité sans en référer à personne, parce qu'il nous paraissait logique et important d'avoir l'avis de votre association sur ces questions. Et Claire Pitola, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône, auteur d'un rapport portant sur l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. Alors d'abord, évidemment, votre réaction à chacune après ces annonces, après ce discours d'Emmanuel Macron ce matin, en commençant peut-être par vous, Marie-Alette Grard.
Écoutez, un discours très fort, un discours très engagé du président de la République. C'est quand même la première fois dans notre pays nous entendons un président de la République dire que si ce n'est pas la France qui mène cette bataille d'éradiquer la grande pauvreté, personne ne la mènera. Maintenant, il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière, beaucoup d'espoirs qui ont été donnés ce matin. Nous allons être très attentifs à la suite.
Et Claire Pitola, comment vous avez vécu cette annonce? Qu'est-ce que vous en retenez en particulier?
Un très beau discours qui a mis l'accent sur le fait que il faut que nous écoutions finalement tous les citoyens. Il faut que nous soyons finalement toujours plus égaux, toujours plus de justice. Et c'est vraiment ce que j'ai perçu sur les territoires, c'est cette stigmatisation qu'on peut avoir. Et on doit vraiment changer de regard sur la pauvreté et faire de tout un chacun notre égal et pouvoir les accompagner chacun dans la dignité, dans une activité. Donc tout ça est ressorti très fortement dans ce discours, un discours qui porte vraiment l'espoir d'une prise en compte de la lutte contre la pauvreté très forte et très intense, un vrai combat.
Alors Claire Pitola, Marie-Alette Grard n'est pas venue faire de la politique, donc je vais me faire rapidement l'avocat du diable. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un correctif à la fois d'image et de moyens après l'épisode de la baisse des APL ou de la suppression de l'ISF ?
Non, je crois qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'agir de manière très globale et on voit que ce plan est vraiment dans une volonté d'accompagnement tout au long de la vie. Le président est resté très longuement sur la petite enfance, sur le fait de dire que dès le départ, on doit donner toutes les chances à l'enfant qui arrive pour qu'il ne soit pas l'adulte pauvre de demain et qu'on doit aussi accompagner à chaque étape pour que les adultes d'aujourd'hui puissent aller vers le plus d'autonomie et surtout choisir son destin.
Alors on va faire le constat ensemble. D'abord, la pauvreté c'est quoi? Comment ça se mesure, Marie-Alette Grard? Et ça concerne combien de personnes aujourd'hui en France?
9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays aujourd'hui.
Alors le seuil de pauvreté, c'est 60% en dessous du revenu médian. Revenu médian, c'est il y a la moitié des gens qui gagnent moins et l'autre moitié qui gagne plus.
C'est ça.
C'est ça, voilà. 9 millions de personnes donc qui sont concernées.
Parmi ces 9 millions, il y en a 2 millions 3 qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, c'est être à 40% du revenu médian, mais vivre avec moins de 640 euros par mois, mais c'est aussi dire que l'on a un cumul de précarité, c'est-à-dire que l'on a des soucis dans le domaine de l'éducation, du logement, de la santé,
de l'emploi.
Voilà, c'est vraiment ce cumul de soucis dans les principaux domaines de la vie de tous les jours, qui fait que l'on vit dans la grande pauvreté. Il y a quand même, n'oublions pas aussi, 1,2 million d'enfants dans notre système scolaire obligatoire qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté.
Alors là, est-ce que Claire Pitola, est-ce qu'il faut d'abord ça, il faut d'abord définir des priorités, s'attaquer à la très grande pauvreté, ou est-ce qu'on peut faire tout d'un coup, enfin s'occuper des 9 millions de personnes d'un coup, est-ce qu'on a les moyens de faire ça?
Moi, je crois que ce que vous avez souligné sur la globalité est essentiel. En fait, il faut regarder tout ce qui constitue la vie, le quotidien, et pouvoir apporter des réponses sur le logement, apporter des réponses sur l'éducation, apporter des réponses sur la santé. Et effectivement, je trouve que ce plan est vraiment à vocation à regarder finalement la grande pauvreté de manière très large, parce que finalement, enfin c'est moi ce que j'ai pu regarder plus précisément sur l'accompagnement vers l'emploi. Il y a une volonté des personnes de combattre leurs conditions de pauvreté et de pouvoir en sortir. Par contre, il faut les appuyer sur toutes les difficultés sociales et sanitaires qui peuvent vraiment constituer des freins qui ne sont pas les freins de la personne. On doit mettre en avant les potentialités des personnes. Par contre, la société doit pouvoir donner la chance du social et du sanitaire à tous.
Marie-Hélène Grard, vous voulez réagir ?
Vous disiez, est-ce qu'il faut d'abord s'attaquer à la grande pauvreté ? Alors, il ne s'agit pas d'opposer la grande pauvreté à la pauvreté. Mais je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de l'éducation, lorsqu'un enseignant s'occupe, prépare ses cours, prépare son enseignement, à partir de l'élève qui a le plus de mal dans la classe, on se rend compte, et c'est pas juste moi qui ai une lubie d'Athée Descartes-Monde qui le dit, mais ce sont des chercheurs qui le disent. On se rend compte que cet enseignant, il permet à cet enfant de progresser, mais à tous les enfants de la classe, y compris ceux qui y arrivent très bien. Donc cet exemple pour vous dire que si on s'attaque à la grande pauvreté dans notre pays, ça va profiter à tout le monde.
Je vais dire quelque chose qui, avec les guillemets d'usage, parce que évidemment il y a 9 millions de pauvres, on a bien conscience de ce problème, mais moi ce que j'ai lu en préparant cette émission, c'est que le système actuel de redistribution sociale en France parvient, par rapport à d'autres pays européens par exemple, à contenir relativement la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin ou changer de système ?
Oui, mais sincèrement, quand on est au RSA actuellement, on ne vit pas, on survit.
On survit, oui, bien sûr.
La vie des personnes qui sont au RSA, elles n'arrivent pas à aller chercher un emploi. Vous l'avez certainement vu, madame, en faisant votre rapport. Elles n'arrivent pas à aller chercher un emploi parce qu'elles sont toute la journée en train de se demander comment faire pour nourrir mes enfants midi et soir, comment faire pour aller payer cette facture, comment... Ils sont sans cesse dans des questions de précarité au jour le jour qui les empêchent d'aller chercher un travail comme vous et moi.
L'argent, Claire Pitola, qui est consacré à la redistribution, il est mal utilisé, il faudrait le réorienter ou...
Aujourd'hui, clairement, il y a une difficulté sur l'accompagnement. L'accompagnement n'est pas effectif, il n'est pas efficient.
Et clairement, les gens sont laissés à eux-mêmes, quoi.
Il n'y a pas assez de contractualisation, d'engagement réellement avec les territoires. Il n'y a pas assez de place en accompagnement et surtout d'accompagnement vers l'emploi. L'accompagnement est beaucoup trop cloisonné. Il va être social, il va être professionnel. Et aujourd'hui, on doit avoir... Une personne, c'est un tout. On ne peut pas la réduire simplement à une résolution sociale, à une résolution sanitaire. Donc il faut pouvoir répondre à ses attentes et surtout mettre les conditions, être vers un accompagnement unique, individualisé, de retour à l'activité et surtout donner la possibilité par des outils à ce que les travailleurs sociaux reviennent à leur cœur de métier qui est l'accompagnement et les dégager de tout ce qui est administratif.
Marie-Hélène Grard.
Et puis, cessons de penser à la place des personnes, mais écoutons-les vraiment.
Ça, c'est un des grands chevaux de bataille d'Athée Descartes-Monde. Hein.
Absolument, parce que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, comme vous et moi, elles ont dépensé sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles veulent pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, mais dans la très grande majorité des cas, elles ne sont pas entendues.
La pauvreté s'hérite, c'est comme ça. Hein. Il y a des calculs de l'OCDE qui montrent qu'en moyenne en Europe et en France, il faut 5 ou 6 générations pour en sortir en une génération. Claire Pitola, c'est le défi que s'est lancé Emmanuel Macron ce matin. C'est quand même très ambitieux.
C'est très ambitieux, mais je crois que c'est le défi à relever. Aujourd'hui, on doit être ambitieux, et c'est vrai que j'ai investigué particulièrement la question du RSA, et aujourd'hui, on doit avoir une amélioration de toutes ces politiques qui doit permettre justement de mesurer l'impact social et donc de pouvoir avoir une évaluation qui soit beaucoup plus large pour casser le déterminisme de la pauvreté. Ce n'est pas simplement en regardant un taux de retour à l'emploi qu'on cassera ce déterminisme-là de la pauvreté. Encore une fois, on parle de famille, on parle de personnes, c'est une globalité et on doit pouvoir leur apporter des réponses sur tout le champ du quotidien.
Quand vous parlez d'accompagnement, et notamment d'accompagnement unique, ça veut dire que il devrait y avoir une sorte de guichet unique pour les gens qui touchent ce type de revenus.
Chaque personne doit pouvoir avoir un contact avec un accompagnant et chaque acteur sur ce territoire, enfin sur les territoires en termes d'accompagnement, a ses compétences. Chaque acteur doit être le guichet de l'autre. Il doit y avoir un fonctionnement beaucoup plus en réseau des acteurs de l'insertion et sociale qui fait que une personne, où qu'elle se rende dans un accueil public, dans une maison sociale, puisse avoir un interlocuteur qui est en capacité de mettre en action tout le champ de l'insertion, parce que ces liens sont facilités avec tous les acteurs et que donc la personne qui reçoit le bénéficiaire va pouvoir écouter, parce que l'écoute active c'est primordial, écouter ce que finalement cette personne en insertion souhaite et l'orienter, la diriger vers les bons acteurs qui l'accompagneront de manière effective et efficiente.
Marie-Alette Grard, c'est un petit peu touffu quand on touche plusieurs aides d'essayer de tout gérer en même temps. C'est une complication supplémentaire, cette complexité ?
C'est une complication supplémentaire, c'est aussi d'avoir divers professionnels qui pensent pour vous quelle est la meilleure solution pour votre vie, pour votre famille, pour votre enfant. Et ça doit changer, ça doit bouger. Franchement, c'est à l'honneur de notre pays si vraiment, en une génération, on arrive à éradiquer la grande pauvreté. Nous sommes la sixième puissance mondiale quand même.
Sixième puissance économique, c'est vrai, ça dépend souvent du niveau de la livre sterling. On se bat avec les Anglais là-dessus, mais c'est vrai que on est un pays riche, il faut quand même le dire.
Nous sommes un pays riche et ce serait quand même la moindre des choses que d'arriver à éradiquer cette grande pauvreté.
Est-ce que c'est compatible avec un financement de 2 milliards d'euros par an ?
Alors écoutez, ce qui nous a été annoncé ce matin, c'est un financement global de 8 milliards d'euros.
En fait, 4 ans, voilà.
Il y a quand même 4 milliards qui sont déjà sur la table, qui sont déjà utilisés. Donc on va plutôt dire qu'il y a 4 milliards nouveaux. Je ne suis pas une spécialiste de ces enveloppes, de l'ensemble de ces enveloppes, mais ça ne fait pas beaucoup.
Claire Pitola, comment vous réagissez ?
C'est l'ambition doit être notre maître mot, et effectivement, à chaque loi budgétaire qui vont passer durant ce quinquennat, il faudra être vigilant sur les arbitrages, qu'ils soient efficients et qu'on améliore tous les process d'accompagnement. Je crois qu'il y a, c'est un sujet ambitieux, il ne s'agit pas de... Il s'agit vraiment d'aller vers l'efficience et d'aller vers le fait, vers des prises de conscience que chacun, le président l'a dit, c'est l'affaire de tous. Vraiment, nous devons être une société qui laisse sa place à chaque personne.
Marie-Alette Grard, je rappelle d'abord que la présentation du budget 2019, ce sera lundi 24 septembre. Qu'est-ce que vous vouliez réagir ?
Non mais au-delà de l'argent... Il y a aussi ce que rappelait le président de la République ce matin, et c'est ça qui est très novateur dans son discours, parce que c'est quand même pas banal d'entendre un président de la République dire qu'il faut entendre les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. C'est pas banal d'entendre un président de la République dire que ces personnes, elles doivent avoir leur part dans la société. Donc c'est ce côté-là du discours qu'il faut absolument changer les mentalités dans notre pays, arriver à faire société tous ensemble, à s'accepter les uns les autres et pas à opposer les pauvres aux très pauvres ou les travailleurs pauvres aux personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Nous avons à faire société ensemble et à arriver vraiment à faire société ensemble.
Alors si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu dans le détail des mesures qui ont été annoncées ce matin. L'aide aux enfants pour tout simplement manger, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes pour se nourrir. Il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière où on expliquait que beaucoup de gens ne pouvaient pas faire 3 repas par jour avec un repas équilibré. Donc il y aura un accueil pour les plus démunis, un petit déjeuner dans les établissements scolaires, un accès à la cantine étendu, l'accès aux crèches aussi pour les familles monoparentales. S'attaquer à ces problèmes très tôt dans la vie, c'est attaquer le mal à la racine. C'est quoi le but, Claire Pitola?
C'est extrêmement positif parce que c'est un besoin fort. Trop d'enfants vivent dans des conditions de pauvreté et effectivement, avec toutes les difficultés que cela génère, c'est positif pour l'enfant, pour qu'il puisse se développer pleinement en collectivité. C'est positif aussi pour la famille parce que un enfant qui ne va pas à la cantine, c'est des difficultés pour ses parents pour accéder à l'emploi. Donc c'est vraiment essentiel que l'accueil collectif soit favorable à l'enfant, puisse vraiment que finalement l'accès à la cantine soit accessible d'un point de vue financier à tous, aux familles pauvres, pour que les parents puissent s'occuper pleinement de retrouver une activité, l'activité qui leur convient. Encore une fois, on parle systématiquement d'écouter les souhaits des personnes.
Des questions de repas à la cantine à 1 euro. Marie-Alette Grard, est-ce que le but de ces mesures, c'est justement de libérer un petit peu les parents pour qu'ils puissent se consacrer à leur recherche d'emploi,
qu'ils puissent se consacrer aux autres enfants s'ils sont plus petits, etc. La cantine à 1 euro est une bonne idée. Après, il faut que les maires s'en emparent, parce que ça, c'est une idée du président de la République, mais dans la pratique, ce sont les maires qui s'occupent des cantines pour les écoles primaires. Absolument. Dans notre pays. Donc c'est aux maires de s'emparer de cette proposition du président de la République, qui est vraiment une bonne proposition. Effectivement, c'est quand même invraisemblable que dans notre pays, tant d'enfants ne puissent pas manger 3 repas par jour corrects. Le président de la République n'a pas parlé ce matin des territoires d'outre-mer. Je dois dire que c'est un regret pour ma part qu'il n'en ait pas parlé, ni des territoires ruraux. Mais ne les oublions pas, parce que dans les territoires ruraux, comme dans les territoires d'outre-mer, la grande pauvreté est présente et il s'agit qu'également dans ces territoires, les enfants puissent avoir un repas le midi comme tous les autres enfants.
L'obligation de formation relevée à 18 ans, Claire Pitola, c'est une question d'accompagnement puisque c'est votre spécialité. Et la question que j'allais vous poser, s'il y a formation mais pas de travail derrière, si le chômage reste à ce niveau-là, à quoi ça sert?
Aujourd'hui, on assiste à une augmentation des offres d'emploi. Donc il y a vraiment un travail que mène la ministre du Travail sur finalement valoriser les métiers en tension.
Le taux de chômage reste assez
jeunes,
haut.
Il y a
beaucoup d'offres qui ne sont pas pourvues, c'est ce que vous voulez dire.
Il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas pourvues et surtout, aujourd'hui, la meilleure des protections, c'est quand même la qualification. Donc c'est très important pour les jeunes de favoriser leur accès à l'emploi par de la qualification. Donc oui, c'est une bonne mesure. C'est extrêmement important de faire en sorte que finalement, l'accès à l'emploi des jeunes soit facilité parce qu'aujourd'hui, il est effectivement difficile et s'ils accèdent à l'emploi, en tout cas, ils sont aussi touchés par la précarité, par des emplois courts, de l'intérim. Et donc ça, c'est la qualification qui peut leur donner la meilleure des protections.
Le revenu universel d'activité qui a été présenté ce matin par le président de la République, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Alette Grard?
Écoutez, le président de la République n'a pas vraiment détaillé ce que serait ce revenu universel d'activité. Nous avons à TD Carmont toujours une crainte dans ces cas-là, c'est de se dire est-ce que ce revenu universel d'activité ne va pas de nouveau faire que des personnes n'y aient pas accès? Est-ce que ça ne va pas diminuer d'autres allocations? Est-ce que l'allocation l'APL ou les allocations familiales ne vont pas être diminuées de fait de ce revenu universel d'activité? Voilà, il faut qu'on reste il faut suivre tout ça.
Alors, vigilance donc sur la mise en place.
C'est une concertation qui doit avoir lieu sur ce revenu universel. Et oui, effectivement, il faudra être vigilant sur comment il est attribué. dans mon rapport, j'ai proposé une automatisation de l'accès aux droits.
Merci Claire Pitola, merci également à vous Marie-Hélène Grard, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr et sur les plateformes mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.